France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été reconnu jeudi dernier coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction. Cette infraction, dite infraction obstacle, est fréquemment utilisée dans le domaine de la justice antiterroriste, notamment pour déjouer certains attentats. Cependant, cette notion qui sanctionne des intentions plutôt que des actes fait débat. Certains critiquent une notion trop large, aux contours flous. D'autres en font en revanche un outil nécessaire, indispensable même à la justice pénale. Alors, dans quel cas la caractérisation d'association de malfaiteurs est-elle justifiée? Comment prouve-t-on une intention? L'utilisation de cette notion constitue-t-elle une menace pour les libertés et les droits de la défense? Deux invités pour en débattre. Raphaël Kempf, bonsoir.
Bonsoir, Quentin l'a fait.
Vous êtes avocat pénaliste, auteur du livre intitulé « Ennemis d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes », un ouvrage qui est paru en 2019 aux éditions La Fabrique. Face à vous, Aurélien Martini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats, procureur de la République, adjoint au tribunal de Meaux. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Si on s'interroge sur l'association de malfaiteurs, je suis suffisamment confrontée à cette infraction pour savoir qu'il y a lieu parfois de s'interroger sur l'ampleur de cette infraction, qu'on qualifie parfois d'infraction fourre-tout. Et d'abord, petite parenthèse, hein, infraction supprimée par Robert Badinter en 83 et rétablie par le gouvernement Chirac en 86. Et on est effectivement face ici à un groupement formé ou à une entente établie, vous l'avez dit, on est bien en amont de la tentative ou du commencement d'exécution. Donc évidemment que on peut trouver dans le jugement des phrases qui justifient les décisions de relax et qui nourrissent le délit d'association de malfaiteurs. Mais ça, c'est la loi. Et je rappelle quand même que cette association de malfaiteurs, elle est toujours soutenue par la famille politique de Nicolas Sarkozy, comme d'ailleurs l'exécution provisoire.
L'avocate pénaliste Marie Dosé dans le grand face-à-face sur France Inter. Et un mot pour rappeler ce qu'est l'association de malfaiteurs selon l'article 450-1 du Code pénal. Elle constitue une association de malfaiteurs, tout groupement formé ou entend établi en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Il faut nous traduire de quoi il s'agit, Aurélien Martini.
Vous l'avez très bien dit, c'est une infraction obstacle. Ça veut dire que le législateur, alors depuis très longtemps, mais disons que le législateur a voulu faire de certains faits de commencement d'exécution une infraction autonome. Ça veut dire qu'on va pouvoir intervenir plus avant dans l'iter criminis, ce qu'on appelle l'iter criminis, c'est le chemin criminel, donc le chemin qui mène à l'infraction, en érigeant en infraction des éléments qui, auparavant, n'étaient que le commencement d'exécution d'une autre infraction. Ça veut dire que c'est un socle, l'association de malfaiteurs, destiné à commettre des infractions finales, des infractions de conséquence, qui peuvent être multiples, qui sont des délits punis de plus de 5 ans, donc pas le vol simple, par exemple, mais ça peut être un vol à main armée, un enlèvement, vous l'avez dit, un attentat terroriste. C'est donc une infraction de prévention. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître surprenant dans le droit pénal, qui est un droit répressif. Ça veut dire qu'on intervient dès lors qu'il y a eu des faits matériels. Donc ça n'est pas juste une intention. Ça ne serait pas possible d'ailleurs en droit français, puisqu'il faut à la fois un élément moral et un élément matériel. Donc une intention et des faits caractéristiques de l'infraction. Mais ça permet d'intervenir, c'est vrai, plus tôt et d'être prouvé plus facilement qu'une infraction de conséquence comme une corruption, par exemple.
Intervenir plus tôt, est-ce que ça veut dire que l'on intervient avant même que l'infraction ait lieu?
Avant que l'infraction de conséquence ait lieu, oui. C'est par exemple, pour prendre l'exemple du terrorisme, où l'aspect préventif est absolument indispensable, on intervient avant que l'attentat soit commis. Mais vous voyez, c'est aussi une discussion qu'on a souvent, notamment quand on est juge d'instruction, de savoir à partir de quand on intervient. Quand vous avez repéré un groupe de malfaiteurs qui s'apprête à commettre un vol à main armée ou un enlèvement, est-ce que vous les laissez commettre l'infraction? Ou est-ce que vous intervenez plus tôt pour éviter que l'infraction soit commise et donc des vies soient mises en danger? Mais à ce moment-là, vous pouvez avoir des difficultés à caractériser l'infraction de conséquence, l'enlèvement ou le vol à main armée ou même leur tentative. Donc vous êtes sur le terrain de l'association de malfaiteurs, qui peut être caractérisée par plusieurs faits matériels, des repérages, des sonorisations, etc. Ce qui permet en fait d'intervenir avant la commission de l'infraction. Et c'est, je le dis très, très tranquillement, absolument nécessaire aujourd'hui, c'est devenu absolument nécessaire à la justice pénale de notre pays.
Raphaël Kempf, qu'est-ce qui vous pose problème dans cette notion? Est-ce que c'est justement le fait que l'on va tenter de déceler, de chercher une intention plutôt que le fait?
L'association de malfaiteurs en l'état vise à punir l'intention d'avoir à plusieurs, de préparer à plusieurs la préparation en vue de commettre une infraction, laquelle n'a pas à être définie. On est donc très en amont du crime, un peu dans cette idée qui est celle de Philippe K. Dick, hein, dans sa nouvelle de 1956, Rapport minoritaire, où dans une dystopie va émerger une police qui va identifier les criminels avant qu'ils ne passent à l'acte. Or, on ne sait pas s'il y a un passage à l'acte tant que celui-ci n'a pas eu lieu. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je suis en désaccord d'un point de vue historique, mais on est là pour en discuter. C'est-à-dire que je considère que l'association de malfaiteurs n'a pas été créée dans le but d'intervenir en amont des infractions, mais elle a été créée dans un but politique de répression d'une idéologie qui déplaisait alors à la fin du 19e siècle, qui était l'idéologie anarchiste. Et lorsqu'on lit notamment un grand texte de Léon Blum en 1800 qui dit qu'en 1893, lorsqu'on a créé en urgence au mois de décembre 1893 l'infraction d'association de malfaiteurs, le but était de s'en prendre aux manifestations d'opinion anarchiste. Et il montre dans un texte absolument remarquable qu'il y a eu des débats sur le mot d'entente, et les débats parlementaires nous montrent que le mot d'entente a été choisi précisément en raison de sa malléabilité et de sa liquidité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut y faire rentrer tout ce qu'on veut. Et lorsqu'on a des mots qui, en droit pénal, sont extrêmement vagues, eh bien c'est là que se loge l'arbitraire, parce qu'on va donner plus de pouvoir aux policiers, plus de pouvoir aux procureurs, plus de pouvoir aux juges pour condamner des gens qui ne devraient pas l'être. Donc d'un point de vue historique, un objectif de répression politique, et d'ailleurs, juste après l'adoption du texte, avec ces lois qu'on appelle des lois scélérates, hein, qualifiées de lois excessives et barbares par Léon Blum, quand même, c'est pas rien, eh bien on a arrêté des anarchistes parce qu'ils étaient anarchistes. Donc voilà, historiquement, cela doit nous poser un énorme problème sur l'association de malfaiteurs.
Je voudrais vous faire réagir, Aurélien Martini, sur cette dimension politique et peut-être arbitraire de la notion. Mais une réaction avant cela, Raphaël Kempf, lorsqu'on entend Aurélien Martini qui explique que, dans le fond, c'est aussi une notion qui est utilisée en antiterrorisme pour permettre d'empêcher que certains attentats soient commis. On peut se dire, c'est tout de même pas mal d'intervenir avant que l'attentat soit commis.
En théorie, oui. Seulement, c'est quoi un attentat déjoué ? On ne sait jamais qu'un attentat a été déjoué, puisqu'il n'a pas eu lieu, et c'est d'ailleurs toujours assez amusant d'entendre un ministre de l'Intérieur dire qu'il a déjoué tel nombre d'attentats, alors que même si on regarde les dossiers, peut-être n'y avait-il pas de passage, de volonté réelle de passer à l'acte. Mais ce qu'on constate aussi dans les dossiers d'associations de malfaiteurs terroristes, c'est que généralement, l'AMT, comme on dit dans notre jargon, ne vient pas toute seule. S'il y a réellement une volonté de s'en prendre à la vie humaine, eh bien, nous avons des individus qui, généralement, ont déjà réuni des armes ou des explosifs ou des éléments qui peuvent revêtir une autre qualification pénale qui permet à l'autorité judiciaire d'intervenir sans avoir besoin de la notion d'association de malfaiteurs ou de l'association de malfaiteurs terroristes. Maintenant, il faut voir comment cette infraction est utilisée, et il y a eu une dérive absolue sous l'effet tout à fait compréhensible, hein, humainement, et la sidération créée depuis une décennie par les attentats terroristes dont des citoyens ont été victimes dans notre pays. Mais l'association de malfaiteurs terroristes, dans la jurisprudence, a connu une extension telle qu'on en vient à punir des manifestations trop radicales d'appartenance à la religion musulmane, des relations avec des personnes avec qui on n'a pas mis un terme. On en vient à punir ce type de choses, et je trouve que c'est dangereux pour les droits et libertés.
Donc vous y voyez une notion liberticide, c'est ce qu'on comprend en creux. Aurélien Martini, une réaction sur la dimension, le risque, j'allais dire même de l'arbitraire de cette notion là.
Oui, je ne nie pas qu'il y ait pu y avoir un objectif politique dans le passé. Alors l'infraction, elle date de 1810, le code pénal napoléonien, et elle a évolué effectivement depuis.
Mais je suis en désaccord avec ce point, mais je m'en explique.
Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend un déroulement d'un schéma criminel classique qui va de « je ne pense pas à commettre une infraction » et l'infraction est consommée. La première étape, c'est « j'y pense ». C'est-à-dire que je veux, mais dans mon fort intérieur, je veux commettre une infraction. Je très schématiquement, parce qu'il y a un peu plus d'étapes que ça, mais je les raccourcis. La deuxième étape sont des actes préparatoires. Je commence à réunir les éléments pour commettre l'infraction. Ensuite, vous rentrez dans le commencement d'exécution, qui est un élément de la tentative. Et ensuite, vous avez l'infraction consommée, c'est-à-dire que je réalise effectivement l'infraction. L'association de malfaiteurs, elle fait bouger le curseur, en quelque sorte, pour permettre de réprimer au moment des actes préparatoires. C'est, encore une fois, effectivement, une façon d'intervenir en amont, d'avoir un aspect préventif, mais c'est absolument nécessaire dans un certain nombre d'infractions. Alors, vous avez parlé du terrorisme, on peut parler de la grande criminalité organisée. Aujourd'hui, la capacité à commettre des infractions s'est accélérée. C'est-à-dire qu'on a des passages à l'acte qui sont beaucoup plus rapides parce qu'on a des méthodes des criminels, des malfaiteurs, qui se sont améliorées, qui sont dopées à la technologie moderne, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est aussi ce texte qui est ancien, mais qui est aujourd'hui utilisé dans cette lutte-là, permet aux enquêteurs et aux magistrats de ne pas perdre... n'être pas pris de vitesse en quelque sorte par les délinquants qui eux ont acquis des notions, ils savent comment les services de police réagissent et ils ont souvent un train d'avance sur nous.
Mais il faut nous dire tout de même, Aurélien Martini, comment est-ce que l'on prouve concrètement, matériellement, une association de malfaiteurs ? Par quoi ça passe ?
Alors, vous avez deux éléments que vous devez prouver, c'est-à-dire un élément matériel, sont les faits caractéristiques de la préparation de plusieurs infractions, d'une ou plusieurs infractions, punies de 5 ans d'emprisonnement. Donc, on n'est pas quand même sur des infractions qui sont les moins punies du code pénal.
Donnez-nous un exemple en crime organisé.
Par exemple, le vol simple, c'est puni de 3 ans, donc il n'y a pas d'association de malfaiteurs pour un vol simple. Un vol aggravé, un vol à main armée, par exemple, c'est un crime. Donc c'est une infraction qui peut rentrer dans la catégorie d'association de malfaiteurs pour commettre un vol à main armée. Mais tout ça pour dire que le législateur a entendu restreindre ce type d'infraction à certaines infractions graves. Et j'ajoute que la corruption est punie de plus de 5 ans d'emprisonnement. Mais voyez, on est même allé plus loin, et il y a eu tout un débat récent sur l'exemple italien. C'est très intéressant parce que nous, on est en France sur l'association de malfaiteurs à la française, si je puis dire, et on a tenté de s'inspirer de l'association de malfaiteurs italienne. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'Italie a été confrontée à un phénomène mafieux, de lutte contre la grande criminalité organisée, et ce qu'il y a de très intéressant avec l'Italie, c'est qu'elle est couverte par le même système de droit que nous en termes de protection des libertés fondamentales, qui est la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que leur organisation, leur système de droit, qui va beaucoup plus loin que le nôtre, a été validé par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, si vous voulez, on peut critiquer. Moi, j'entends bien que c'est une infraction large, je le sais bien, et qu'il y a un degré probatoire plus faible. C'est plus facile à prouver que les infractions de conséquence. Mais c'est validé aussi par nos instances supranationales, y compris lorsqu'on va plus loin, comme c'est le cas de l'Italie.
Raphaël Kempf, on se le dit, là, en l'occurrence, dans le droit français tel que la notion existe aujourd'hui, c'est fondé, cette accusation, sur des faits matériels. Qu'est-ce qui vous inquiète alors ?
Non, c'est pas fondé sur des faits matériels, c'est fondé sur une interprétation de certaines rencontres ou de certains éléments sur lesquels les prévenus ou les accusés ne peuvent pas donner d'explication de telle sorte qu'il y a une forme de renversement de la charge de la preuve où on va dire par exemple, vous êtes resté en contact avec votre frère, votre cousin dont vous ne pouvez pas ignorer qu'il était radicalisé et donc qu'il avait l'intention de commettre un attentat terroriste. Et donc, regardez les mots qui sont employés, ne pas pouvoir ignorer que. Et ça, c'est ce qu'on retrouve sous la plume d'un certain nombre de magistrats dans ce type de dossier, où on va reprocher à des gens de ne pas avoir ignoré que.
Et donc, là, il n'y a pas d'objectif, selon vous.
Non, c'est d'une certaine manière un renversement de la charge de la preuve, dans ce sens où c'est la personne mise en cause qui va devoir prouver son innocence, prouver qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions, et pas à l'accusation de prouver qu'il y avait de mauvaises intentions. Donc il y a une vraie difficulté, moi je suis tout à fait... Il faut abroger. Je pense qu'il faut abroger absolument l'association de malfaiteurs, ce qui aurait, me semble-t-il, un premier effet bénéfique d'éviter une forme de fainéantise ou de paresse des services d'enquête ou de poursuite, parce que on se dit qu'on doit prouver une infraction réellement réalisée et pas juste une intention, et ça aurait un deuxième effet positif d'éviter que, dans l'espace public, parmi les citoyens, eh bien, on ait le sentiment qu'une personne a été condamnée pour quelque chose qu'elle n'a pas réellement fait, ce qu'on peut observer ces derniers jours, où des gens disent des soutiens de Nicolas Sarkozy expliquent qu'il a été condamné alors qu'il n'avait pas conclu de pacte de corruption. En supprimant, en abrogeant le délit d'association de malfaiteurs, comme Robert Badinter l'avait fait en 1983, eh bien, on évite ce type d'effet tout à fait indésirable.
Nicolas Sarkozy, justement, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné jeudi 25 septembre pour association de malfaiteurs, donc à 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé, assorti de l'exécution provisoire à 100 000 euros d'amende et à la privation des droits civils et civiques dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2017. Aurélien Martini, qu'est-ce que l'association de malfaiteurs vient faire dans une affaire politico-judiciaire ?
Eh bien, précisément, le législateur n'a pas entendu exclure les affaires politico-financières du champ de l'association de malfaiteurs. Mais vous voyez, quand on pose la question comme ça, c'est que, en fait, inconsciemment, consciemment, on hiérarchise la gravité des infractions en se disant les infractions politico-financières, ou en tous les cas qui touchent à aux comptes publics, aux atteintes à la nation, l'article 4, le livre 4 pardon du code pénal seraient moins graves que des atteintes aux biens ou des atteintes aux personnes. Sauf que les infractions qui étaient reprochées, les infractions de conséquence, notamment la corruption, sont des délits punis de 10 ans d'emprisonnement. Donc la peine la plus élevée pour un délit. C'est dire que en fait la gravité que l'on ressent d'une infraction, elle est très subjective. Mais le législateur, lui, et qui est notre guide quand on est magistrat, le seul qu'on est, la loi, elle met au même niveau ces infractions que le trafic de stupéfiants, par exemple. Trafic de stupéfiants, la détention de stupéfiants, le transport, l'offre ou la cession, c'est 10 ans d'emprisonnement. Donc vous voyez que c'est toujours très délicat de dire, et en fait on pourrait reformuler la question en disant, mais pourquoi voudrait-on exclure du champ de l'association de malfaiteurs des délits punis de 10 ans d'emprisonnement, soit les délits les plus graves du code pénal? Et si en fait on a recours à l'association de malfaiteurs, c'est qu'en fait on travaille de façon assez classique dans un dossier d'instruction, où on cherche tous les éléments qui peuvent, à charge et à décharge, caractériser ou pas une infraction. Et quand on trouve des éléments, on essaie de les qualifier. Et quand on fait rentrer les faits et l'élément moral qui est lié dans cette qualification, on arrive à un résultat qui est, en premier, l'association de malfaiteurs, parce que oui, c'est plus facile à prouver. Et après, on va essayer de déterminer les infractions de conséquence. Et toutes les discussions qui ont eu lieu sur mais alors c'est très curieux qu'on retienne l'association de malfaiteurs et pas les infractions de conséquence, notamment la corruption. C'est parfaitement logique, puisque c'est premier l'association de malfaiteurs, et ensuite on va vers les infractions de conséquence. Donc les relax partiels sur les infractions de fond, moi j'ai lu le jugement, c'est parfaitement motivé, et c'est assez courant dans la vie des juridictions qu'on en arrive à ce type de solution.
Raphaël Kempf, dans cette affaire également, le recours à la notion d'association de malfaiteurs ne vous paraît pas justifié ?
Alors, je pense que ce recours est injustifié en toutes circonstances, mais ce qui est intéressant de noter, il faut le souligner, c'est que Nicolas Sarkozy doit être injusticiable comme les autres, et la loi doit s'appliquer de façon égale. C'est-à-dire que si on est sévère avec tout un chacun, on doit l'être également avec Nicolas Sarkozy, donc ces plaintes à ce titre-là ne me paraissent pas fondées. Ce qu'il faut dire peut-être pour les auditeurs, auditrices, c'est que l'association de malfaiteurs est utilisée de façon massive en matière politique. Rappelez-vous, par exemple, de l'affaire Tarnac, qui est une affaire qui a commencé sous Nicolas Sarkozy, qui avait été monté en épingle par le ministre de l'Intérieur d'abord, Michel Alliot-Marie, par le procureur de Paris, qui, rappelons-le, je suis en présence d'un procureur, n'est pas un magistrat indépendant. Une affaire où des personnes, pour des raisons politiques, qualifiées d'ultra-gauche, avaient été poursuivies, envoyées en prison et finalement relaxées 10 années plus tard.
Ils avaient sectionné tout de même des caténaires.
On avait reproché à ces personnes d'avoir cherché à sectionner des caténaires pour couper le trafic de TGV. Mais on voit qu'ils ont fini par être relaxés. On voit que cette infraction est extrêmement utilisée en matière politique. Récemment, il faut donner des exemples précis, récemment cette infraction a été utilisée contre des militants antinucléaires à Bure dans la Meuse qui s'opposent à un site d'enfouissement de déchets nucléaire, quelle que soit notre
mais
position.
Sur le procès Nicolas Sarkozy, on va revenir sur les militants sûr, écologistes, sûr. Mais tout de même sur le fond du procès Nicolas Sarkozy, pourquoi cela ne vous paraît-il pas justifié, justement, ce recours à la notion d'association de malfaiteurs ?
C'est-à-dire que j'ai une cohérence. C'est-à-dire que j'écris un livre où, à la suite de recherches, de ma pratique d'avocat, de recherches historiques, j'ai acquis la conviction que l'association de malfaiteurs doit être abrogée et pose un immense problème dans notre droit. Ce n'est pas parce que quelqu'un que j'aborde, à savoir Nicolas Sarkozy, dont j'ai détesté la politique, notamment en matière pénale. C'est quand même le président des peines planchers, c'est le président qui a employé le terme de racaille. C'est ce président-là, que je déteste pour toutes ces raisons, eh bien, j'ai quand même une cohérence intellectuelle, une cohérence juridique, qui est de dire, même quelqu'un comme cela, eh bien, je ne souhaite pas que lui soit appliqué un délit scélérat comme l'est l'association de malfaiteurs.
Vous nous avez dit, Aurélien Martini, la raison d'être de l'association de malfaiteurs, c'est notamment d'empêcher des gens de passer à l'acte. En quoi, là, en l'occurrence, cela empêcherait-il Nicolas Sarkozy de passer à l'acte, puisque, j'allais dire, tout est fait et l'affaire a au moins une quinzaine d'années?
Alors, c'est une infraction obstacle, effectivement. Donc, ça permet d'intervenir avant.
Là, en l'occurrence, on est bien après.
Là, en l'occurrence, oui, on est bien après, absolument. Et parce qu'on est dans le cadre d'une infraction occulte.
Donc, qui a mais été donc, pourquoi y avoir recours plus tard.
Mais parce que sont les termes de la loi. Si vous voulez, la raison d'être première, c'est effectivement d'être une infraction permettant d'intervenir tôt dans le chemin qui mène à la commission du crime et d'une infraction consommée. Mais ça n'empêche pas d'y avoir recours même quand les infractions consommées ont eu lieu ou pas d'ailleurs, parce que le tribunal voilà, a prononcé la relaxe sur ces infractions-là. On pourrait parler des heures de l'indépendance des procureurs, mais si vous voulez dire par là qu'il faut réformer le statut du parquet, je suis d'accord avec vous.
Après, dans vous adressez à Raphaël Kempf.
Oui, pardon.
J'ai pas dit ça, mais on peut en parler.
Mais sur l'indépendance des procureurs, parce qu'il n'y a pas d'instruction dans les affaires duelles, mais on a une vraie difficulté, une vraie fragilité sur le statut du ministère public à la française. Donc, c'est une infraction qui est effectivement utilisée, mais si vous voulez, on a ce débat aujourd'hui. Et sur l'égalité de la loi pénale, moi je suis d'accord avec vous, soit on applique la loi pour tout le monde de la même façon, soit on l'applique pour personne. Mais on ne peut pas faire de tri. Et on a un principe constitutionnel d'égalité devant la loi pénale qui nous vient de 1789, il est important, et les Français, je crois, y sont attachés. Donc moi je partage l'idée qu'on ne peut pas traiter différemment selon que vous êtes fort ou faible, puissant ou pas, que vous avez des titres, des mandats, etc. Donc c'est important de montrer aussi que la justice pénale, elle passe, y compris lorsqu'on a une personnalité effectivement hors du commun, un ancien président de la République, face à soi.
La voix de Charles Consigny, essayiste et avocat d'Alexandre Djouri dans cette affaire. Il était l'invité de l'émission C'est ce soir, présentée par Karim Rissouli.
L'association de malfaiteurs, elle a été rajoutée exprès par le juge d'instruction, qui écrit lui-même d'ailleurs dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qu'en gros, il n'a pas de preuves sur la corruption. Il y a deux pages sur ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute cette infraction, qui est une infraction quasiment spécialement faite pour cette espèce de voiture balai. En gros, elle est à la discrétion du juge. Donc, à quoi sert cette association de malfaiteurs? À sauver un dossier dans lequel, effectivement, il n'y a rien ou quasi rien en termes probatoires, mais l'association de malfaiteurs est une espèce de bouée de sauvetage.
Que pensez-vous de cette double expression, Raphaël Kempf, bouée de sauvetage, voiture balai, cette notion-là d'association de malfaiteurs? Dans le fond, on n'a pas pu condamner, selon Charles Consigny, Nicolas Sarkozy pour différentes choses, notamment la corruption. Alors, on en vient à l'association de malfaiteurs parce que c'est plus facile.
Bien sûr. Alors, je ne connais pas dans le détail le fond du dossier Sarkozy, n'étant pas avocat dans ce dossier. Néanmoins, je partage mot pour mot ce qui a été dit par mon confrère Charles Consigny, malgré nos désaccords politiques, connus. Mais je partage ce qu'il a dit parce que je pourrais tout à fait plaider la même chose, et j'ai déjà plaidé la même chose dans des dossiers d'association de malfaiteurs terroristes, dans des dossiers politiques, militants, etc., etc. C'est ce que nous constatons. Et donc, on est face, d'une certaine manière, à un dilemme quand on est avocat de la défense, parce que quand on va sur un plateau de télévision ou une émission de radio comme ce soir, où on alerte nos concitoyens sur les dangers de ce délit, mais lorsqu'on va être dans un tribunal ou une cour d'assises, parce qu'on défend des gens, eh bien, on va inviter les magistrats à faire l'appréciation la plus restrictive possible, pardon, de ce délit d'association de malfaiteurs, ce que j'appelle, d'une certaine manière, le dilemme des lois scélérates, mais qui, me semble-t-il, on peut en parler, fait peut-être la grandeur et la complexité du métier d'avocat pénaliste.
Aurélien Martini, vous souhaitez réagir également au propos de Charles Consigny?
Oui, enfin, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de preuve dans le dossier. Ça, c'est un avocat de la défense qui le dit sur un plateau de télé après que son client a été condamné. J'entends bien, mais il a été solidement établi que l'argent libyen a bien été envoyé en France. Le tribunal le dit. Il faut aller lire le jugement. Il y a énormément de preuves.
Il dit effectivement que l'argent a été envoyé, absolument.
Oui, et il dit que c'est de l'argent liquide, donc on n'a pas retrouvé trace. Mais enfin, il y a quand même des gens qui ont été condamnés pour corruption, Claude Guéant notamment. Donc, il faut faire attention quand on dit comme ça à l'emporte-pièce. Il y a pas de preuves dans le dossier. Il y a évidemment des preuves. Il y a 400 pages de motivation. Donc, il y a des éléments dans le dossier. On pourrait avoir un point d'accord sur le fait que une infraction libellée dans des termes trop larges peut être dangereuse. Mais il faut avoir le débat jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on supprime l'infraction, est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger? Le danger auquel on fait face, je ne crois pas que l'association de malfaiteurs ait conduit à des injustices en France flagrantes. En revanche, si on supprime l'association de malfaiteurs aujourd'hui, moi je le dis, on désarme la justice pénale, notamment face à la criminalité organisée et au terrorisme. Donc on est dans une situation
Comment concrètement cela vous désarmerait-il?
En fait, vous haussez le seuil du niveau probatoire pour condamner. Ça veut dire que dans certains groupes criminels structurés, vous n'allez pas pouvoir aller chercher certains membres du groupe criminel, qui sont d'ailleurs souvent en haut de l'échelle, parce que, précisément, ils auront des comportements d'évitement, parce qu'ils seront extrêmement prudents, et que cela, vous n'allez pas pouvoir les retenir dans le lien de la prévention. Donc ça permet aujourd'hui d'aller plus loin, et c'est d'ailleurs, si l'Italie a utilisé l'association de malfaiteurs mafieuses à l'italienne, en disant, je caricature un peu, mais on n'est pas loin de la vérité, à partir du moment où vous êtes membre d'une organisation criminelle, vous répondez des infractions commises par cette organisation criminelle. Encore une fois, c'est un pays européen qui est proche de nous. qui a une culture judiciaire qui est assez proche de la nôtre, même si les procédures ont pu diverger dans les fin des années 90, et qui est couverte par la CEDH. Donc, il ne faut pas non plus exagérer le danger. Je ne le nie pas. Le texte est large, il permet d'avoir un seuil probatoire plus bas. C'est vrai. Mais il faut aussi concevoir le problème dans son entier et de dire que si on supprime l'infraction, ou peut-être qu'il faut la remplacer par quelque chose d'autre, mais alors je suis prêt à vous écouter, si on supprime l'infraction, on désarme aussi la justice pénale et on lui enlève un outil de lutte contre les crimes organisés et contre le terrorisme.
Votre réaction sur un point, Raphaël Kempf, Aurélien Martin nous dit pas d'injustice flagrante engendrée par l'association de malfaiteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
Je suis totalement en désaccord avec ça. Des injustices flagrantes, il y en a eu. L'affaire Tarnac en est une avec des gens qui ont été emprisonnés. L'affaire des militants écologistes de Bure en est une également avec des gens qui ont été empêchés pendant des années de militer, de faire de la politique. Et c'est pourtant quelque chose d'absolument capital dans une démocratie, de s'organiser, de se réunir. Mais il y a un mot qui m'a particulièrement surpris, voire choqué dans ce qui vient d'être dit, c'est la métaphore de l'armement et du désarmement. Mais à partir de quand un magistrat peut dire qu'il faut avoir des armes ? On n'est pas là pour mener une guerre à la société, vous êtes là pour poursuivre des gens et rendre la justice. Moi, ma vision que j'ai de la justice est un endroit dans lequel on va examiner des preuves, on va poursuivre des gens, on va respecter des droits, on ne va pas mener une guerre à la société. Je suis extrêmement choqué par cette métaphore qui vient d'être employée. Maintenant, d'autres exemples, parce qu'il faut, expliquer quand même aux auditeurs, aux auditrices de quoi l'on parle. En 2010, a été adoptée une loi qui est une forme de version un peu light, si je puis me permettre, de l'association de malfaiteurs, qui est ce qu'on appelle le délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Donc on a le même mot que dans l'association de malfaiteurs, groupement en vue de. Loi de 2010 qui a été créée à l'initiative de Nicolas Sarkozy, et j'ai là sous les yeux un discours de Nicolas Sarkozy le 18 mars 2009, qui dit « Les délinquants qui composent des bandes ont compris que, en l'état de nos lois, ils ne peuvent pas être condamnés si on ne peut mettre à leur charge la commission d'un fait précis. » Voilà Nicolas Sarkozy lui-même qui plaidait pour l'extension de la logique de l'association de malfaiteurs à certaines bandes qu'il qualifiait de bandes violentes. Or, cet article, qui est, pour les auditeurs, auditrices qui veulent le vérifier facilement, l'article 222-14-2 du Code pénal, a créer des injustices flagrantes, pour reprendre vos termes, monsieur le procureur de la République, depuis 2010, contre les militants et les militantes politiques de façon générale, car c'est, et c'est ma dernière phrase, car c'est le texte qui est employé pour interpeller les gens avant les manifestations et les priver de liberté.
D'un mot, Raphaël Kempf, pour bien comprendre ce que vous dites là, est-ce que vous êtes en train d'expliquer en creux que, dans le fond, cette notion d'association de malfaiteurs est aujourd'hui employée régulièrement, là, une fois de plus, pour des raisons politiques, comme vous l'avez tracé avec les militants anarchistes de la fin du 19e siècle ?
Oui, l'exemple des militants écologistes, de Tarnac, je peux parler de militants kurdes hein, qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, je peux parler de militants d'extrême-gauche dans une affaire dite du 8-12 où un homme que je défends a été emprisonné à l'isolement dans des conditions absolument terribles pendant 16 mois et je parle de cette version light de l'association de malfaiteurs qui a permis de mener une guerre, hein, pour reprendre les termes de l'armement, de mener une guerre aux militantes politiques dans ce pays depuis 15 ans. Et cela est absolument, me semble-t-il, intolérable.
C'est une accusation grave, Aurélien Martini. C'est, dans le fond, l'expression d'une justice, là, qui, en l'occurrence, qui serait politique aussi.
Oui, alors c'est une accusation qui vient de tous les bancs de l'Assemblée, de tous les bords politiques. Bon, si ma métaphore vous a choqué, j'en choisirais une plus fleurie. Mais je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais j'ai quand même la sensation que vous grandissez et vous ne voyez le danger que d'un côté. Moi, je suis capable de regarder des deux côtés. Oui, un texte pénal rédigé de manière trop large peut être un danger pour les libertés publiques. Et en même temps, il faut être équilibré et faire la balance entre le danger pour notre démocratie que constitue la montée en puissance du crime organisé. Je ne crois pas, et pour avoir été magistrat dans plusieurs juridictions en France, je ne crois pas qu'il y ait de justice politique et qu'on empêche aujourd'hui des gens de manifester, d'exprimer leur opinion en France. Je pense que c'est faux de le dire, et c'est dangereux de le laisser penser.
Par conséquent, Aurélien Martini, sur ces deux cas concrets, sur Tarnac et sur Bure, comment vous les interprétez ?
Alors non, mais je ne connais pas ces cas, j'ai pas eu accès au dossier, je ne peux pas réagir comme ça, là c'est impossible pour moi de réagir comme ça. Je ne sais pas si vous étiez avocat dans ces dossiers, mais moi en tous les cas, Oui, voilà, donc vous connaissez bien les dossiers, moi je ne les connais pas, donc je ne peux pas réagir là-dessus. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'instructions, il n'y a pas de cabinet noir d'instructions qui sont passées au procureur de la République pour poursuivre tel groupe politique, tel autre, tel militant. Ça, c'est faux, c'est inexact. Et je pense qu'il faut arrêter de faire penser que la justice pourrait être aux ordres du politique et politisée. C'est, encore une fois, c'est une critique qui a souvent été faite, qui est souvent faite par les gens qui sont poursuivis, mais elle est dangereuse parce que elle procède par confusion, par amalgame, et elle vise à, au fond, sans que ce soit forcément l'objet de ceux qui le font, à décrédibiliser une institution qui est constitutionnellement la garante des libertés individuelles. Donc il faut faire très attention. Mais je crois qu'il faut vraiment, et je voudrais insister là-dessus très fortement, il faut avoir conscience du monde dans lequel on vit et de la dangerosité aussi. Parce que on parle de la criminalité organisée comme ça, tranquillement, sur les plateaux de télé, de radio. Mais ça a des conséquences très concrètes dans la vie économique du pays, avec des entreprises qui sont rackettées, des entreprises qui sont passées sous contrôle des mafias, disons-le très clairement. Une emprise sur la vie locale qui peut être très forte, demain sur la vie électorale. Donc on a un vrai risque, un vrai danger, un vrai enjeu. Et quand le Sénat, quand la proposition de loi sénatoriale, le rapport sénatorial sortir la France du piège du narcotrafic est sorti, nous on a été entendus, on a été assez contents de cette prise de conscience, parce que véritablement on en est là, et tous nos collègues qui travaillent notamment dans les juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS qui sont en première ligne, la Junalco à Paris, nous disent ce qu'ils disent au Sénat, ils se sont fait gronder par Éric Dupond-Moretti, on est en train de perdre, alors j'ose plus dire la guerre, la bataille, en tous les cas, on est en train de perdre contre le crime organisé. Et contre le crime, oui, il y a des règles de droit qui s'appliquent, mais effectivement, c'est une lutte de l'état de droit contre le crime organisé.
Je reviens un instant sur cet argument de la justice politique, Raphaël Kempf. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence, justement, de votre part, lorsque vous reprochez à certains de vos adversaires politiques, cette fois, de dire que les juges sont politisés? Je pense notamment aux personnes qui s'inscrivent dans le champ droitier de la politique française, et de reprendre en creux certains de ces arguments en accusant les juges de faire de la politique.
C'est une question intéressante, mais vous aurez remarqué, enfin je l'espère, que je ne parlais pas des juges, mais des procureurs de la République. Si on peut avoir un raisonnement au moins en deux temps. On est d'accord autour de cette table, me semble-t-il, que le procureur de la République, en l'état du droit, n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Vous savez aussi probablement que les procureurs de la République reçoivent, par voie de circulaire, des instructions qui lui sont données par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et dans le champ qui m'intéresse, qui est le champ de la répression des militants et militantes politiques, j'ai vu depuis 10 ans un grand nombre de circulaires qui ont été adressées par des procureurs de la République, par le garde des Sceaux à des procureurs dans toute la France, pour demander une répression sévère des personnes arrêtées dans des manifestations, avec des jugements en comparution immédiate, qui est une modalité de jugement qui, pour reprendre par exemple les termes de Nicolas Sarkozy, fait honte à la France, parce qu'on juge des prévenus en quelques minutes à peine, sans pouvoir exercer réellement les droits de la défense. Maintenant, au-delà de la justice politique, sur la question de l'association de malfaiteurs, parce que un réquisitoire a été fait contre le crime organisé, ce que je peux tout à fait entendre, mais je n'ai pas entendu en quoi la notion d'association de malfaiteurs permettait, plus que d'autres infractions de détention d'armes, par exemple, ou de trafic de stupéfiants, ne permettait pas réellement de lutter contre l'association de malfaiteurs. Donc, deux mots sur cette question. L'association de malfaiteurs est conspuée et dénoncé depuis son existence, depuis sa création en 1893. Et dans la période contemporaine, on a très rapidement, en 1999, un rapport de la FIDH qui envoie des observateurs internationaux en France. C'est quand même rare, il faut imaginer la France comme une république autoritaire où on envoie des observateurs internationaux pour voir comment est rendue la justice.
La FIDH, c'est la Fédération internationale des droits de l'homme. Hein.
Qui a dit « l'association de malfaiteurs terroristes pose problème ». En 2008-2009, au moment de l'affaire Tarnac, il y a eu un grand nombre de communiqués, notamment de la part de la Ligue des droits de l'homme, qui ont dit l'association de malfaiteurs pose un problème. Et encore récemment, dans la période récente. Donc en fait, tous ceux qui défendent les libertés, qui s'intéressent à ce délit, disent ce délit pose un problème et doit être abrogé.
Aurélien Martini, dans l'affaire de Nicolas Sarkozy, est-ce que la justice communique trop peu, communique trop mal, justement, pour expliquer pourquoi elle a eu recours à cette notion-là, celle d'association de malfaiteurs?
Oui, d'abord, juste un mot. En France, c'est l'institution judiciaire qui est gardienne de la liberté individuelle. Ce n'est pas la FIDH, avec tout le respect que j'ai pour les travaux qui sont menés par elle. Donc, il ne faut pas mélanger tout. Quand vous dites les voix de la liberté s'élèvent contre l'association de malfaiteurs, non, il y a des voix de la liberté aussi. Et moi, mon métier, c'est d'être le gardien de la liberté individuelle. J'étais magistrat du parquet et du siège. Et je soutiens le fondement et la raison d'être de l'association de malfaiteurs. Alors, sur la communication judiciaire, c'est un enjeu majeur. On l'a vu, les syndicats, et notamment, enfin, l'Union syndicale des magistrats a été quasiment la seule organisation à communiquer sur cette affaire, à essayer de faire de la pédagogie. Et on en a besoin. Ce n'est pas simple parce que ça recouvre certaines difficultés. Ça expose les magistrats de communiquer, puisqu'on va leur reprocher après chaque mot qu'ils ont pu dire, alors que la parole syndicale est un peu plus libre, même si elle doit être mesurée et nuancée. Si c'est le procureur qui le fait, on va lui reprocher d'être une partie au procès, donc de n'avoir pas un avis objectif, donc c'est très compliqué. Je pense que les prises de parole de Jean-François Bonnert, le procureur national financier, de PMM Gallet-Marsban, le président du tribunal judiciaire de Paris, ont été bienvenues, elles ont été fortes, elles ont été claires, elles ont été pédagogiques, et je pense que le monde judiciaire, et au-delà, la France, au fond, avait besoin de ces prises de parole pour comprendre. Parce que la difficulté de cette décision, c'est qu'on adressait beaucoup d'écrans de fumée, en parlant de notions, alors l'exécution provisoire, l'association de malfaiteurs, en disant tout le mal qu'on en pensait. Mais on a parlé assez peu du fond. D'ailleurs, il faut aller lire le jugement. La presse en a fait des résumés assez synthétiques, parce que 400 pages, c'est peut-être un peu indigeste. En tout cas, il y a des résumés. Mais l'enjeu de la communication, il se pose aujourd'hui à l'institution judiciaire. Le président du tribunal judiciaire de Paris a fait des propositions, notamment un porte-parole des juridictions, au moins dans les grosses juridictions. Je pense que c'est une voie intéressante qu'il faut explorer.
Raphaël Kempf, est-ce que vous souhaiteriez vous-même, et même si vous êtes en désaccord avec certains juges, certains magistrats en l'occurrence, que ceux-ci puissent avoir un porte-voix ?
Oui, je pense que c'est utile qu'on puisse avoir quelqu'un avec qui on puisse discuter, mais d'ailleurs comme on le fait ce soir. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir de la séquence actuelle ? Parce que c'est quand même tout à fait intéressant de voir le camp de la droite qui s'est battu depuis des années pour un populisme pénal, pour une aggravation des peines, pour des procédures plus rapides qui ont rempli les prisons, et bien tout d'un coup se dit ben, l'association de malfaiteurs, ça pose un problème, la prison, ça pose un problème. Je pense qu'il faut se saisir de ce moment tout à fait particulier dans lequel nous sommes pour essayer de promouvoir les libertés, avoir un débat serein que nous n'avons jamais sur l'association de malfaiteurs, sur les prisons. On a ce débat-là un petit peu, mais il faut redire, il y a des gens qui sont choqués que Nicolas Sarkozy aille en prison. J'aimerais que ces gens soient choqués, qu'on envoie tous les jours en comparution immédiate de façon absolument détestable des gens remplir les prisons et être emprisonnés au milieu des rats et dans des cellules où s'entassent parfois 3 ou 4 personnes. Donc profitons de ce moment-là très particulier pour ouvrir ces débats-là et les avoir.
D'un mot, Aurélien Martini, des magistrats impliqués justement dans ce procès du financement libyen ont été menacés par un certain nombre de personnes, menacés physiquement. Comment est-ce que vous réagissez face à cela ?
Écoutez, bien évidemment, nous sommes au soutien de nos collègues et nous avons dénoncé les faits très rapidement. Il y a une vraie difficulté parce que jusqu'à présent, et ça monte en puissance, mes collègues étaient menacés par le crime organisé. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui sont mis sur la tête des juges, mais aussi des policiers, des agents pénitentiaires, etc.
Là, on a franchi un cap ?
Alors, c'est un effet en tenaille, en quelque sorte, puisque après le procès des assistants du RN, puis maintenant celui du financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, on a une nouvelle vague de menaces qui vient cette fois-ci de condamnations qui sont à destination de personnalités publiques. C'est très dangereux. Nous, on a appelé à la modération et à la retenue, en disant que les propos de certains peuvent parfois engendrer chez des esprits peut-être un peu plus faibles ou un peu plus excités des passages à l'acte dangereux. Donc il faut faire attention quand on parle par exemple d'un complot, qu'on dit qu'il y aurait eu un complot judiciaire, ces termes-là doivent être proscrits. Parce qu'il y a des centaines de magistrats qui se sont posés la question sur ce dossier, des questions qui ont qualifié des faits sur une dizaine d'années. Donc il n'y a pas de complot judiciaire. Et quand on dit ça, on alimente l'idée que tout est permis en réponse à cela.
Raphaël Kempf et Aurélien Martini, merci beaucoup de ce débat constructif, passionnant. Et merci à celles et ceux qui ont fait cette émission. Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey, Juliette Moëlly et Antoine Héral.